l'impact de l'intelligence artificielle.
I have a dream.
It's one small step for man,
puis l'Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
h05 ici à Washington DC, 19h05 en temps universel. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre dans votre émission L'Amérique et vous, Alexandrine Prolognon, au micro ce soir. Et aujourd'hui, nous revenons sur le sommet de Paris sur l'intelligence artificielle. Le sommet qui a rassemblé des participants d'une centaine de pays a insisté sur le fait que cette nouvelle technologie en évolution rapide doit être ouverte, éthique et encadrée par une gouvernance internationale. Mais la déclaration commune n'en a pas été signée par la Grande-Bretagne, les États-Unis ou des acteurs clés de l'industrie. Une soixantaine de pays l'ont tout de même signée. Pour des analystes, la rencontre a révélé de profondes divisions sur l'avenir de cette technologie. Et pour ce débat, nous allons nous intéresser aux enjeux de ce sommet et de la place qu'occupe l'Afrique dans cette course à l'intelligence artificielle. Pour la discussion, je suis avec Kemal Afagnon, responsable section Afrique de l'Ouest d'Internet sans frontières, qui nous rejoint de Cotonou au Bénin. Bonsoir Kemal.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Nous avons du côté de Kenya ce soir Tofen Kama, directeur des investissements en Afrique pour Mercy Corps Ventures. Vous gérez également un portefeuille de start-up utilisant les technologies comme l'intelligence artificielle pour apporter des solutions dans des secteurs comme l'agriculture, l'énergie et le climat. Bonsoir Tofen.
Bonsoir, bonsoir et merci pour l'invitation.
Heureuse de vous retrouver surtout.
Absolument.
Alors, une course à la domination de l'intelligence artificielle, un défilé de dirigeants politiques et du monde de la tech. L'intelligence artificielle était au cœur des discussions scientifiques, politiques et diplomatiques. Un événement parallèle organisé par la Chine a eu lieu mardi dernier, réunissant d'éminents experts à l'intelligence artificielle du monde entier pour échanger des points de vue sur la coopération mondiale en matière d'IA. C'est-à-dire combien le sujet intéresse. Kemal, qu'est-ce qui explique selon vous aujourd'hui l'urgence de ces rencontres mondiales autour de l'IA?
Je pense que l'urgence autour de cette rencontre autour de l'IA, c'est déjà l'importance de faire tomber le mythe autour de l'intelligence artificielle qui serait encore quelque chose d'abstrait au XXIe siècle, donc quelque chose qui fait partie intégrante de la science-fiction, alors qu'aujourd'hui, on a déjà l'intelligence artificielle qui régit des pans entiers de nos sociétés, donc c'est l'un des enjeux autour de ce type de sommet. Et puis, l'autre enjeu aussi, c'est que vous avez une guerre aujourd'hui, une guerre qui oppose des puissances aujourd'hui, qui veulent ne pas rater le coche de l'intelligence artificielle. Et donc, à travers ce genre de sommet, aujourd'hui, vous avez des alliances qui se nouent, vous avez des partenariats. Et donc, on essaye un peu de mettre en scène une sorte de vision autour d'un certain concept partagé de l'intelligence artificielle. Et c'est ce qu'on a pu voir, d'ailleurs, lors du sommet de Paris, où on a eu, justement, deux visions qui se sont radicalement affrontées, donc à travers la question de la régulation de la technologie, par exemple, donc une question qui était au cœur de ce sommet et qui a montré, aujourd'hui, que du côté américain, donc on a une administration qui veut prendre le parti des patrons de la tech américaine, des patrons de grands groupes américains que Joe Biden avait qualifié d'oligarchie dans son discours d'adieu, donc quand il passait le témoin à son remplaçant. Donc sur la question de la régulation, par exemple, l'administration de Trump, à travers la posture adoptée lors du sommet de Paris, montre clairement, par exemple, qu'elle jette par-dessus bord tout ce qui concerne la diplomatie multilatérale.
On va revenir progressivement sur cela tout à l'heure. Je vais rebondir sur... Je vais rebondir justement sur cette guerre que vous mentionnez un peu plus tôt, Kemal. Les États-Unis, en effet, étaient présents à cette rencontre à Paris à travers le vice-président des États-Unis, J.D. Vance. Les États-Unis sont les leaders dans l'IA et notre administration en tant qu'il le reste, a déclaré J.D. Vance lors de cette rencontre. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, je l'avais mentionné un peu plus tôt, n'ont pas signé la déclaration commune sur une IA ouverte, inclusive et éthique. Tofen, est-ce que cela démontre aujourd'hui une volonté de domination de ce secteur de la part de ces non-signataires de cette déclaration commune?
Oui, absolument. Alors, on peut avoir deux lectures de ce phénomène. La première lecture peut être une lecture simple, de dire que, voilà, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est devenue une guerre technique, technologique. Donc, chacun veut se positionner et peut-être signer très rapidement des conventions peut être limitant pour certains grands acteurs du secteur. Sachant que très, très frontalement, on a quand même les États-Unis en face de la Chine sur ce qu'on a vu jusqu'à présent entre des acteurs comme OpenAI, Grok et autres, et DeepSeek qui vient d'arriver presque de nulle part. Donc, je peux comprendre ça. L'autre vision, l'autre approche, c'est ce que nous voyons toujours dans la tech. Hein, quand il y a une nouvelle technologie, les Américains sont toujours dans l'idée de laisser la technologie vivre, voir des dérives, de prendre le risque, avant éventuellement de regarder la régulation. Et il y a d'autres pays, souvent l'Union européenne, a très vite tendance à vouloir réguler très vite. Donc il y a ces deux visions du monde qui s'affrontent dans ce contexte.
Vous l'avez dit tous les deux, oui. Vous l'avez dit tous les deux, les États-Unis défendent clairement une approche non interventionniste pour alimenter l'innovation. Et du côté de l'Europe, on resserre plutôt les rênes avec des réglementations strictes pour garantir la sécurité. Pendant ce temps, la Chine développe rapidement l'IA. On a vu l'onde de choc que l'application DeepSeek a lancée à travers le monde par l'intermédiaire de géants de la technologie soutenue par l'État rivalisant pour dominer la course mondiale. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'IA est vue comme un outil géopolitique? Je vais d'abord vous entendre, Kemal.
Oui, on peut dire que l'IA est vue comme un outil géopolitique et on peut faire cette analyse à travers, par exemple, toute une série en fait de projets qui sont déployés, par exemple, avec une vocation géopolitique. Aujourd'hui, quand on prend, par exemple, les deux acteurs principaux, quand on voit, par exemple, le type de projet centré sur l'IA qu'ils déploient, par exemple, dans certaines régions du monde, on peut effectivement parler de relance géopolitique autour de l'IA, absolument. Oui.
Pour revenir à la déclaration commune qu'une soixantaine de pays a signée lors de ce sommet à Paris, la Chine, ce qui a surpris tout le monde, a signé ce traité et on a l'impression que la Chine joue sur les deux tableaux. Elle prône le contrôle à l'intérieur du pays tout en promouvant l'IA à source ouverte à l'étranger. D'abord, j'aimerais bien comprendre ce concept de l'IA ouverte, de open source, ce qui est Tofen.
Alors, la Chine a surpris tout le monde. Et j'avoue que nous, on a regardé ça avec beaucoup de surprises aussi, parce que souvent, les technologies chinoises, les plateformes chinoises sont souvent fermées. Et souvent, ils essaient aussi de fermer leur marché par exemple, à des Facebook et autres. Donc, le fait de voir DeepSeek arriver en étant complètement ouvert, les papiers qui accompagnent le produit ont été ouverts, disponibles, tout le monde peut le tester, vérifier. C'était quand même une grande surprise. Après, je peux revenir plus tard sur la stratégie, peut-être ce que je pense de ce qu'ils essaient de faire. Mm-hmm. Mais une IA ouverte, c'est une IA que tout le monde peut aller vérifier dans la transparence pour voir comment il résonne. N'importe qui peut le reproduire. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs quand DeepSeek est arrivé. Plein de gens sont allés reproduire exactement les performances du modèle. Et en fait, tout est disponible pour tout le monde.
Mais que gagnent du coup les concepteurs de cette technologie? Qu'est-ce qui leur revient finalement si le principe est ouvert à tout le monde, tout le monde peut copier les données de cette application?
En fait, l'open source est un business model. Hein. En fait, on peut gagner de l'argent différemment. Par exemple, Linux est un système d'exploitation open source. En fait, le système d'exploitation est complètement gratuit. Mais il y a plein d'acteurs qui gagnent de l'argent sur les services additionnels complémentaires, comme l'assistance, la customisation, les services d'installation et autres. Dans ce cas particulier, donc je revenais là-dessus sur le cas de DeepSeek, Je ne pense pas, dans ce cas particulier, qu'on parle pour l'instant d'argent, de revenus, de business model. Je pense que ce que les gens ont essayé de faire, c'est de montrer, pendant que les Américains étaient plus en train de pousser vers des IA plus consommatrices de budget et d'énergie, notamment avec les GPU de Nvidia, qui étaient interdits en Chine depuis un certain temps, ce qu'ils essayaient de prouver, c'est que, en fait, on peut faire un modèle moins cher, et en plus, pour prouver au monde qu'on l'a fait, il faut le mettre open source, gratuitement disponible, que tout le monde puisse le vérifier. Sinon, en fait, certains sont tentés de dire que ce n'est pas vrai, que c'est peut-être une simulation. Voilà. Donc, je pense que là, c'est une attaque sur le modèle américain qui nécessite, vous avez vu les budgets que Elon Musk et Grok ont dépensés sur les GPU.
Oui.
Voilà. Donc, c'est de montrer qu'en fait, vous allez dans la course à la force brute. Nous, on peut faire quelque chose de moins cher, vraiment très, très, très peu cher, avec quelque chose d'aussi intelligent, sinon plus intelligent. Je pense que c'est... Et ça, du coup, ça parce que DeepSeek est gratuit pratiquement aujourd'hui par rapport à OpenAI. Donc, on met en fait... c'est plus une guerre technologique. On crée des problèmes à l'adversaire en attendant de voir comment on va se positionner plus tard. Le business model va arriver plus tard, je pense.
Un avis sur cet aspect, Kemal, avant de passer à la question de la régulation?
Oui, je pense en fait que ce qu'il faut comprendre à travers le terme IA, donc intelligence artificielle ouverte, inclusive et éthique, qui a été affiché lors de ce sommet, c'est en fait que les pays qui se sont retrouvés autour de la table, en fait, se sont prononcés pour une sorte de gouvernance de l'IA à travers un dialogue mondial et en fait appellent de leurs vœux une sorte de dialogue qui évite une concentration monopolistique du marché. Donc c'est un concept qui cherche à favoriser avant tout le multilatéralisme et la confiance pour éviter, par exemple, qu'une utilisation de l'IA favorise, par exemple, la vassalisation de certains pays par rapport à d'autres autour de cette table de négociation. Donc, éviter la vassalisation de certains pays dans la course à l'IA, car c'est de ça qu'il s'agit, et œuvrer plutôt pour une sorte d'accès juste et ouvert en faisant abstraction des divisions entre les pays du Sud d'une part et les pays du Nord d'autre part, et œuvrer en sorte pour une sorte d'égal accès de tous les continents aux opportunités qu'offre l'IA. Malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours prendre avec des pincettes les discours prononcés lors de ce type de sommet qui vantent des rapports inclusifs, équitables et justes, car il y a avant tout lors de ce type de sommet, la réelle politique, et le reste n'est souvent que grande utopie, comme un peu les discours de bidounours autour d'une IA au service de l'humanité, avec dans le même temps une course de l'IA qui vit désormais au rythme de grandes annonces, comme on a pu le voir lors de ce sommet, par exemple, avec l'Europe aujourd'hui qui, en essayant de ramener des partenaires dans son giron, veut aussi manœuvrer pour montrer aux deux grands qui étaient là, à savoir la Chine et les États-Unis, qui n'ont pas encore dit leur dernier mot dans cette compétition qui est en train de se jouer, en fait.
Pour revenir à la question de la régulation, oui, mais comment réglementer? Qui doit fixer les règles? Les États, les entreprises technologiques, Tofen?
Alors, moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Hein. Je pense que ce qu'on observe souvent, surtout ici en Afrique, moi, j'ai vécu l'aventure du mobile money, notamment de M-Pesa et autres, que tout le monde admire aujourd'hui, et qui est arrivé pratiquement par accident. Je peux vous garantir que si un certain nombre d'acteurs financiers, notamment de grandes banques, avaient été au courant, ou savaient ce qui allait arriver, on ne l'aurait pas eu, en fait. Donc, je me méfie souvent un peu de la réglementation trop rapide. Je pense que tout ça, c'est des outils technologiques. Chaque fois qu'une invention arrive, on se pose des questions métaphysiques. Et finalement, on se rend compte que la bombe nucléaire, c'est quand même tout aussi destructeur. Et pourtant, on le gère plus ou moins aujourd'hui. Je pense que la réglementation est nécessaire. Elle est absolument nécessaire. Par contre, il faut réglementer une fois qu'on a une idée un peu plus précise de ce qui est possible déjà. Et je pense que l'IA, c'est quand même quelque chose de nouveau. C'est arrivé aussi pratiquement par accident. Ici en Afrique, les gens aussi utilisent l'IA. Vous serez étonné du nombre de projets qu'on voit arriver sur nos tables tous les jours. Mmh. Pour vous dire que c'est un phénomène mondial, mais c'est un outil. Donc, il faut le réglementer, mais il ne faut pas être trop obsédé par une réglementation trop rapide, sans même savoir ce que la technologie peut ou ne peut pas. On peut faire évoluer la technologie de façon éthique, de façon ouverte, et surtout l'ouverture. Quand on l'ouvre, ça veut dire que tout le monde peut le tester, tout le monde peut le vérifier.
Cela rejoint un peu la position des États-Unis qui pensent qu'il faut laisser libre cours à l'innovation. Qu'est-ce que vous en pensez, Kemal?
Je pense que c'est important donc d'adopter une approche modérée quand il s'agit de la question de la régulation. C'est pour cette raison, par exemple, qu'au niveau d'Internet sans frontières, nous militons pour une mise à niveau des législations africaines, une mise à niveau qui leur permettrait de mieux prendre en compte les terminologies telles que l'intelligence artificielle, la blockchain, l'open data et autres. Et c'est pour cette raison que, par exemple, au niveau d'Internet sans frontières, nous avons milité pour que le code du numérique, par exemple, en République du Bénin, soit revu, réaménagé. Et c'est cette intention qui nous a amené, par exemple, à conduire un lobbying à Genève dans le cadre du mécanisme de l'examen périodique universel. L'examen périodique universel, qui est un mécanisme du Conseil des droits de l'homme qui incite chaque État membre à procéder tous les 4 ans et demi à une sorte d'évaluation par les pairs de son bilan en matière de droits de l'homme. Mmh. Donc, l'examen périodique universel permet régulièrement, par exemple, à chaque État de rendre compte des mesures qu'il a prises pour améliorer la situation des droits de l'homme à l'échelle nationale et pour surmonter les obstacles à l'exercice des droits de l'homme. Et aussi, c'est un mécanisme qui permet aux États qui sont évalués de recevoir des recommandations d'autres États des Nations Unies qui s'appuient sur des contributions de différentes parties prenantes et de rapports pour contribuer à l'amélioration de la situation dans le pays qui est évalué. Donc, ce genre de mécanisme peut être mis en place aussi pour l'intelligence artificielle. Et cela permettra de mettre en place des garde-fous pour justement éviter les éventuels abus, les éventuels dérapages, les éventuelles manipulations auxquelles on pourrait assister dans les champs informationnels aussi bien en Afrique qu'ailleurs en fait dans le monde.
Et tout à l'heure, nous allons parler de la place de l'Afrique dans cette course à l'intelligence artificielle. Je précise juste que la bataille pour le pouvoir de l'IA n'est pas seulement au niveau des grandes puissances, elle s'intensifie également dans le secteur privé. On a vu cette semaine les échanges entre Elon Musk, patron de X, de Tesla et de SpaceX, et Sam Altman, PDG d'OpenAI, et autour du désir de Musk d'acheter la plateforme d'intelligence artificielle. On va marquer une courte pause, on revient juste après pour la suite de ce débat.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Vous suivez l'Amérique et vous sur VOA Afrique en direct de Washington. Alexandre Grignon à ce micro et je suis avec Kema Lafagno, responsable section Afrique de l'Ouest d'Internet sans frontières, qui nous rejoint de Cotonou au Bénin, et Tofen Kaman, directeur des investissements en Afrique pour Mercy Corps Ventures. Nous parlons de la course à l'intelligence artificielle sur le plan mondial avec le sommet de Paris qui s'est tenu en début de semaine. En avril prochain, le Rwanda annonce également dans sa capitale Kigali le premier sommet mondial de l'IA sur l'Afrique. Le thème est l'IA et le dividende démographique de l'Afrique, réimaginer les opportunités économiques pour la main-d'œuvre africaine, preuve que le continent n'est pas en reste dans l'engouement que suscite l'intelligence artificielle, mais c'est surtout le retard du continent qui est pointé du doigt, le déficit d'infrastructures numériques et le manque de data centers propres au continent. Tofen, avant de parler des obstacles du continent à prendre part à cette révolution en cours, évoquons les atouts du continent. En la matière, vous travaillez avec des start-up qui utilisent cette technologie pour révolutionner le secteur de l'agriculture, par exemple.
Oui, absolument. En fait, je pense que à la grande différence de peut-être ce qu'on peut imaginer l'IA étant de la science-fiction, nous, on travaille déjà avec des start-up africaines au Sénégal, au Nigeria, au Kenya, qui utilisent l'intelligence artificielle dans des domaines très, très, on va dire, traditionnels, comme l'énergie, comme l'agriculture. Ça ne nous étonne pas du tout, en fait. Après, il peut y avoir des modèles plus ou moins sophistiqués, plus ou moins compliqués, mais nous pensons que cette mode-là, cette tendance-là de créer des modèles locaux pour des problèmes bien spécifiques à la région va s'accélérer, d'ailleurs. Et ces modèles ne sont pas si gourmands que les OpenAI qui nécessitent énormément de computing power. Nous pensons que l'avenir, en tout cas dans notre région, est plutôt là-dessus. Juste pour vous donner un exemple, juste ce matin, j'étais ici avec un entrepreneur nigérien qui essaie de développer des agronomy centers, service centers autour de dans des coopératives, sur des milliers et des milliers de coopératives partout dans le pays. Et en fait, ils ont développé une intelligence artificielle qui peut communiquer avec les gens pour expliquer comment utiliser certains fertilisers, certains seeds, certains inputs d'agricole. Et je peux vous dire, ce qu'ils essaient de faire, c'est de faire en sorte que le jeune qui sort d'école, qui n'est peut-être pas un grand, grand spécialiste, mais qui est disponible dans la communauté, en lui mettant cet outil-là, on augmente sa capacité quasiment comme si c'était un grand expert du secteur. Là où on a peut-être un manque d'experts, où on n'a pas forcément la capacité de livrer ces experts-là dans, partout dans les communautés en Afrique. Vous voyez en fait ce qui se passe. Moi, je suis vraiment très, très étonné et extrêmement surpris de voir ce qu'on appelle le dividende démographique. Tous ces jeunes qui utilisent cet outil-là comme si c'était naturel pour eux, là où peut-être nous, qui avons un certain âge, commençons peut-être à regarder ça avec une certaine distance, eux, ils sont à fond dedans. Mmh. Que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans l'agriculture, pratiquement, nous avons quoi, presque une centaine de start-up depuis le début de l'année qui nous exposent des projets les plus divers et les plus sophistiqués, sans aucun complexe.
Alors, pour préparer cette émission, je suis tombée sur un article du journal Le Monde qui citait l'indice 2023 de degré de préparation à l'IA d'Oxford Insight. Selon cet article, l'Afrique subsaharienne en particulier est la région la moins bien équipée au monde pour pouvoir saisir les opportunités de l'IA. L'Afrique pourrait-elle aujourd'hui, vous avez l'impression de dire qu'il n'y a pas de retard sur le continent, si je vous ai bien compris, Tophène, mais l'Afrique pourra-t-elle aujourd'hui rattraper ce retard? On parle de grands sous quand même, de gros sous en termes d'investissement, de data centers, d'infrastructures et d'électricité surtout. L'Afrique serait-elle aujourd'hui en mesure de rattraper ce retard, selon vous, Kemal?
Bon, c'est une question en fait qu'on pourra évaluer sur le long terme et c'est bien entendu à travers les implications juridiques, éthiques, sociétales, politiques et économiques d'évaluation pourra se faire. Toutefois, selon le même classement Oxford Insight que vous venez de citer en fait, vous avez certains pays qui seraient mieux classés, donc mieux positionnés que d'autres, en fait, pour accueillir favorablement les innovations en termes d'intelligence artificielle. Donc, le rapport que vous venez de parler cite par exemple des pays tels que l'Égypte, la Tunisie et le Maroc pour l'Afrique du Nord. Et du côté de l'Afrique subsaharienne, vous avez des pays comme la Mauritanie, l'Afrique du Sud, le Rwanda, dont on a parlé à l'instant, le Sénégal et le Bénin, donc qui font figure de modèle. En fait. Toutefois, il faut dire que au-delà du potentiel de ces pays, il y a encore des problèmes qui subsistent. En fait. Donc, vous avez par exemple dans certains pays du continent déjà des petites mains en fait, qui servent en fait à soutenir quasiment l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle en fait qui continue d'entretenir le mythe d'un système automatisé qui filtrerait tout par lui-même. Donc vous avez par exemple un pays comme le Kenya, donc on a en mémoire encore toute la polémique autour du sous-traitant Sama de Facebook qui montre aujourd'hui que l'intelligence artificielle exploite en fait des gens dans des pays africains, par exemple. Le continent est également la réserve principale de minerais nécessaires à la production de cette IA, donc les puces qui sont utilisées pour cette IA. On a aujourd'hui un pays, à savoir la RDC, qui regorge de mines de cobalt, par exemple, et où les multinationales de la tech, aujourd'hui, qui prospèrent dans ce pays, donc ferment les yeux par rapport aux charniers qui existent et ne redistribuent pratiquement rien dans le tissu socio-économique de ce pays. Mais à côté de ce tableau sombre, on a aussi en même temps des organisations publiques qui investissent tout doucement dans le développement d'applications, dans le développement de projets autour de l'intelligence artificielle. On a aussi des compétitions qui sont organisées de façon régulière. Je veux parler par exemple des hackathons qui permettent aujourd'hui d'exposer les solutions spécifiques qui sont proposées dans quantité de secteurs d'activité propres à l'écosystème africain. Merci. Donc, cette solution aujourd'hui couvre une gamme étendue de domaines assez intéressants tels que la gouvernance, la biodiversité, la...
Merci, merci beaucoup Kemal Afagno. Avant de clore cette émission, je vais quand même vous souhaiter, monsieur, une joyeuse Saint-Valentin, Tophène.
Alexandrine, merci beaucoup.
Merci, merci à vous pour votre intervention pour cette émission Tofel Kama et également à Kemal Afanyon du côté de Bénin. Je remercie les auditeurs qui nous ont accompagnés et je remercie Michel Joseph pour l'assistance technique. Il était question de la course à l'intelligence artificielle et surtout de la place de l'Afrique dans cette course. Pour la suite des programmes sur VOA Afrique, je vous laisse en compagnie de Jean-Roger Billon pour un nouveau point de l'actualité. Très bonne soirée avec nos programmes sur VOA Afrique.